Previously.
Il binge-watchait déjà avant que ce soit cool. Alain Carazé revient pour vous sur des séries cultes. Au menu aujourd'hui, Handmaid's Tale.
Retrouvez-moi tous les mercredis dans Previously, le podcast de Télé-Loisirs, pour plonger dans une série phare que non seulement je vous raconte, mais dont je vous livre aussi des coulisses. Quand on parle de récompenses prestigieuses pour des séries télé, données par un parterre de professionnels, par des pairs de ceux qui sont nommés, on pense évidemment aux Emmy Awards. Et vous imaginez sans peine que depuis quelques années, l'excellence dans l'art de la fiction télé revient à des productions de HBO ou de Showtime, des séries initiées par des chaînes du câble ou plus récemment par des services de streaming. Et là, si comme ça je vous demande de me dire quelle est la première série initiée par une plateforme de streaming, à savoir, par exemple, qui a remporté un Emmy Award, quelle est la première série à remporter, non, on va dire plusieurs Emmy Awards, et puis cerise sur le gâteau, un Golden Globe, tout ça dans les catégories majeures, hein, évidemment, genre meilleure série dramatique, là, spontanément, ben, vous pensez à Netflix. Vous me dites House of Cards, Orange is the New Black, The Crown, 13 Reasons Why, Marseille. Non, bon, ça je sais que c'est complètement grotesque, c'était pour voir si vous suiviez. Netflix, quoi. Le mastodonte, le poids lourd de la SVOD. Il n'arrête pas de le dire lui-même. Bon, ou alors éventuellement Amazon Prime, hein. Eh ben non, c'est Hulu qui, la première, a décroché l'Emmy Award de la meilleure série et le Golden Globe de la meilleure série aussi pour sa création originale. Une série produite par la MGM et initiée par elle. Lors des 69e Emmy Awards de Primetime, la série remporte le prix de meilleur scénario, meilleure réalisation, meilleure actrice de second rôle, meilleure actrice tout court, 8 Emmy Awards en tout sur 12 nominations. Hulu, voilà. Mais c'est quoi Hulu?
Hulu, come TV with us.
Discrète mais puissante de par ses 28 millions d'abonnés aux États-Unis, Hulu est une plateforme qui se présente initialement comme un agrégateur de replay pour les principales chaînes de télé américaines. Un replay de séries et de tous ses partenaires, Universal et Disney, pour passer ensuite à un modèle payant et donc sans interruption publicitaire. Et évidemment, comme toutes les autres chaînes, Hulu a besoin, pour son image de marque, d'une production originale, qui soit son porte-drapeau, son totem, son symbole. Tout comme Netflix, qui a eu House of Cards, ou HBO, qui a eu son Soprano. Pas automatiquement des succès d'audience, bien sûr, mais des succès critiques. Et c'est ce qui se passe lors de cette incroyable soirée des Emmy Awards, où c'est un véritable raz-de-marée pour la série de Hulu.
And the Emmy goes to Bruce Miller, The Handmaid's Tale.
Anne Dowd, The Handmaid's Tale.
Reed Morano for The Handmaid's Tale.
Elizabeth Moss.
And the Emmy goes to The Handmaid's Tale.
Et lors de la cérémonie, après avoir remporté le prix prestigieux, l'un des producteurs de cette série disait à la presse à propos de Hulu, nos partenaires Hulu sont sans peur. Chaque jour, ils nous encouragent à aller plus loin.
To go for it.
Ce genre de soutien apporté à nous tous, aux artistes, c'est exceptionnel. C'est d'autant plus ironique que celui qui parle, le producteur en question, c'est Warren Littlefield, anciennement vice-président de la NBC, un network gratuit et en linéaire, et il y a développé des séries absolument mythiques, comme Cheers, The Golden Girls, Seinfeld, tous les lots en ordre, Homicide, Le Prince de Bel-Air, The West Wing, Will and Grace, etc., etc. Et cette légende de la télévision remercie maintenant une plateforme de streaming pour son courage. C'est quand même un peu fou. Ah mais en fait, je vous ai même pas dit en plus de quelle série il s'agissait. Vous l'avez déjà sans doute entendu, hein. The Handmaid's Tale, La Servante Écarlate. Lancée en avril 2017 avec une première saison de 10 épisodes, elle se poursuit chaque année avec des nouvelles saisons de 13 épisodes. Handmaid's Tale est une dystopie, à savoir une vision déformée de notre monde, un univers parallèle comme on le voit souvent dans les comics, une terre où des événements ne se sont pas déroulés comme on le pense avec toutes les conséquences que cela implique. C'est par exemple la série d'Amazon Prime, The Man in High Castle, qui nous décrit un monde où les nazis ont remporté la Deuxième Guerre mondiale et ont envahi les États-Unis. C'est le sujet, par exemple, de leur prochaine série, For All Mankind, qui nous montre un monde où les Russes ont gagné la course à l'espace, mais où celle-ci continue pour les Américains, ou même, par exemple, c'est la classique série V, qui nous imaginait un monde envahi par des aliens bienveillants, en tout cas moins bienveillants qu'ils ne le disent. Dans le monde d'Handmaid's Tale, le gouvernement totalitaire de Gilad a pris le pouvoir aux États-Unis et il positionne un régime reposant sur le fanatisme, une révérence religieuse à un ordre nouveau, le tout porté par une oppression militaire qui fait régner la terreur. La technologie moderne a disparu, il n'y a plus ni ordinateur, ni portable, ni télévision, ni radio, car ce sont des sources d'éducation. Dans cette société, les femmes sont réduites à l'esclavage. Elles ne peuvent ni lire, ni posséder quoi que ce soit. Seules celles qui sont fertiles et peuvent donc procréer sont enrôlées en tant que servantes écarlates. Soumises, elles vivent dans la maison des élites et n'ont qu'une seule fonction, enfanter un bébé qui deviendra l'enfant du couple. Dans cet univers, en effet, suite à une catastrophe écologique, la majorité des femmes ne peuvent plus procréer. Les rares qui le peuvent encore deviennent donc, contre leur gré, des mères porteuses. Endoctrinées par des tantes, espionnées par des membres de la police d'élite, les yeux, toutes ces handmaids, toutes ces servantes, doivent donc soumission et obéissance.
My name is Alfred. I had another name, but it's forbidden now.
La série est narrée par les yeux d'un personnage, une des servantes écarlates, June Osborne, rebaptisée Offred, après qu'elle a été capturée et enrôlée en tant que servante. Elle est intégrée auprès de la maison du commandant Waterford et de sa femme Serena. Avec moi, pour explorer la série dans les détails, j'ai le plaisir d'accueillir Delphine Rivet, journaliste spécialisée série à Combini. Bonjour.
Salut.
Delphine.
Salut Alain.
Donc, tu as suivi toute la série depuis le début, tu as suivi aussi le développement de cette série, bref... Tu es complètement la personne idéale pour nous expliquer, pour nous parler un petit peu des événements marquants déjà de la toute première saison adaptée du livre original de la série. Donc, une fois qu'il y a eu la présentation et la mise en place de cet univers au début des épisodes, qu'est-ce qui se déroule, qu'est-ce qui se passe au début de la saison 1 ?
Il faut savoir qu'à Gilead, ce qu'on découvre dans la série, dès les premiers épisodes, c'est qu'il y a plusieurs castes de femmes. Elles sont donc réparties en fonction aussi de leur fertilité, puisque Gilead a asservi les femmes. Il a conservé les femmes qui sont fertiles, qui sont encore en mesure de procréer. Donc elles sont placées dans des maisons. Elles sont violées de façon rituelle et régulière par le maître de maison. Les autres femmes qui sont stériles, alors soit elles sont envoyées dans des camps de travail. En général, on y envoie les lesbiennes, les femmes noires, les vieilles, tout ce qui n'est pas une femme capable de procréer. Elle ne sert qu'à ça, voilà. Et si en plus elles ne sont pas, elles sont contre les principes de Gilead, évidemment, il faut les évincer.
Il y a une répression absolument faramineuse,
ouais.
Sans merci envers toutes les femmes qui osent s'opposer au régime.
Tout à fait. Ah bah oui, il y a des murs quand les femmes se baladent pour aller, enfin se baladent, vont d'un point A à un point B pour aller chercher des oranges ou des produits au marché, il y a des murs où des femmes ou des hommes aussi d'ailleurs sont pendus, soit en raison de leur orientation sexuelle, soit parce qu'effectivement ils se sont opposés au régime. Donc on a dans les maisons des commandeurs, on a les épouses qui elles donc sont stériles, mais comme ce sont des notables, des femmes de notables, elles sont relativement protégées, même si d'une certaine façon elles sont elles aussi asservies. Il y a donc les servantes écarlates comme June qui elles sont réduites à leur rôle de génitrice. Et il y a les Martha qui sont elles des domestiques. On les reconnaît, elles sont habillées un peu de gris, elles sont relativement invisibles et d'ailleurs ça va servir dans la saison 2, cette espèce d'invisibilité. Il y a les tantes. Donc la plus connue et la plus redoutée, la tante Lydia, qui sont en gros ces femmes, des espèces de matriarches qui ne sont pas fertiles donc, mais qui sont en charge de l'éducation, je mets des gros guillemets, des futures servantes. Donc en gros, elles les brisent et elles leur apprennent l'obéissance.
Dans la première saison, tante Lydia est un personnage très, on va dire, négatif, méchant, enfin dominatrice et ainsi de suite. Et on y reviendra dans la saison 2 parce que
le personnage, je crois savoir, évolue quand même un peu, montre une autre facette de son caractère, mais on y reviendra dans la saison 2.
Et donc en saison 1, on apprend aussi petit à petit, par petites touches, comment le régime de Gilead a été instauré. Comment tout d'un coup ça a pu basculer. Donc on voit June, dans un passé pas si lointain que ça, vivre une vie d'américaine normale. Et un jour, elle arrive et elle se rend compte que sa carte bleue ne fonctionne plus. Qu'elle est obligée, quelques jours après, de demander à l'autorisation de son mari, Luc, pour s'acheter la pilule contraceptive. Donc petit à petit, les droits des femmes vont être grignotés comme ça. Et en fait, Gilead a versé dans le totalitarisme en se servant d'un prétexte religieux qui va évidemment être utilisé de façon absolument machiavélique. Par petite touche, et une des premières choses qu'on entend June dire, c'est en gros, on ne s'est pas rendu compte. Quand les droits des personnes homosexuelles ont été attaqués, on n'a pas réagi. Quand ils nous ont essayé de grignoter, alors je paraphrase, ça peut être les droits sur l'avortement, ça peut être des petites choses comme ça. On n'a pas réagi, et tout d'un coup, on s'est retrouvé dans un monde, apocalyptique pour les femmes, quoi, véritablement. Et c'est en ça qu'elle est très pertinente aussi aujourd'hui, cette série, comme elle l'était déjà à l'époque où le livre est sorti en 85. C'est que ce sont des choses qui, à travers l'histoire et à travers le monde, arrivent constamment aux femmes, en fait. Dont les droits sont grignotés, mais partout sur la planète, des femmes et des homosexuels et des personnes de couleur. Voilà. Donc c'est un peu l'histoire d'une certaine forme de domination masculine, en l'occurrence.
En fait, cette histoire d'infertilité n'est qu'un prétexte pour mettre en place une dystopie dans laquelle y a ce régime totalement autoritaire qui intervient et qui impose sa loi à tout le monde. L'infertilité n'est presque qu'un gimmick, en fait, ni plus ni moins.
Oui, c'était vraiment un prétexte pour des religieux fondamentalistes d'imposer leurs règles de puritanisme. C'est un régime qui est militaire aussi, il y a une milice, il y a des espions au sein de cette milice qui sont infiltrés dans les maisons pour garder un œil comme ça sur tout le monde et pour s'assurer que tout roule, quoi, que le régime fonctionne. Déjà, on se rend compte que June, c'est loin d'être quelqu'un qui s'écrase, parce qu'on a accès à ses pensées, parce qu'il y a une voix off. Donc on entend sa voix intérieure. Et on entend tout ce qu'elle n'a pas le droit de dire, en réalité, puisque ce sont des femmes dont la parole est contrôlée, qui n'ont plus le droit de lire. Dont tout ce qu'elles se disent entre elles, il faut que ce soit, c'est très policé. Donc en anglais, under his eye, may the Lord open. C'est
avec
que
des phrases qui reviennent
très,
tout le temps.
Voilà, très religieuses, comme un espèce de mantra qui leur lave le cerveau, limite. Mais on sent que la résistance, elle s'opère déjà dans le cerveau de June, parce que il y a des regards caméra où elle est très effrontée des fois quand elle regarde la caméra. On sent que elle dit oui à son maître, mais dans son regard, elle dit autre chose. Et en voix off, on l'entend dire « fuck you », on l'entend vraiment se rebeller. Il faut savoir qu'elle a en plus une raison supplémentaire de se rebeller, c'est que quand elle est capturée au tout début de la série par le régime, donc réquisitionnée, enfin c'est son utérus qui est réquisitionné en quelque sorte, elle est déjà maman. Elle est maman d'une petite fille, et cette petite fille, en fait, on la capture et on la sépare, et elle va être en réalité élevée avec d'autres petites filles dans une autre maison, et June ne la verra plus. Et donc elle a toujours aussi cet espoir, alors déjà de fuir un jour et de retrouver son mari qui lui a réussi à s'échapper au Canada, où la vie est normale là-bas, qui échappe à ce régime. Mais en plus, elle a surtout cette volonté farouche, puisqu'elle est déjà maman, de retrouver sa fille.
Si tous les premiers épisodes nous montrent donc par le détail les sévices et brimades auxquelles sont soumises les servantes, le thème de la saison 1 est clairement la fuite.
Oui, c'est-à-dire qu'on a vu au long de cette saison, évidemment plutôt vers la deuxième moitié, par petites touches, qu'il y avait un réseau de résistants. Enfin, de résistanteux, même. Mayday. En fait, ce sont des paquets avec des lettres qui sont transmises sous le manteau, grâce à des complices, évidemment, qui parviennent de familles de ces handmaids qui ont passé la frontière, qui sont en sûreté. Et donc June, à un moment, a connaissance de ça. Évidemment, son premier réflexe, c'est de l'ignorer, enfin, ou en tout cas d'enterrer ça très profondément au fond d'elle, parce qu'elle se dit résister, c'est mourir quelque part. Elle sait qu'elle peut mettre non seulement elle, mais aussi ses amis en danger. Elle ne sait pas toujours pas quel est le sort de sa fille. Donc potentiellement, ça peut avoir des conséquences dramatiques. Donc elle apprend qu'il y a ce réseau de résistance là. Ça va finir par, c'est une idée qui va finir par germer dans sa tête, et c'est un peu un petit bout d'espoir dans ce monde qui est hyper noir. Et effectivement, la série, la première saison se suit vraiment les livres. La seule différence qu'il y a par rapport aux livres, c'est en fait. La production de la série a eu un petit souci. C'est-à-dire que le livre a été écrit en 85. Et dans le livre, ce qui avait fait un petit peu polémique, c'est que les personnes noires n'existaient quasiment pas. Mmh. Ils étaient dans un camp. Donc comme elles étaient écartées, on ne les voyait pas, donc on n'en parlait pas. Dans la série, s'est posé le problème que, on est à l'époque où elle est lancée en 2017, que ça devient compliqué de faire une série qu'avec des blancs. C'est quand même difficile à justifier. Donc ils se sont dit, soit on suit le bouquin et on n'en montre aucune personne de couleur en disant qu'ils sont dans un camp. Soit on déroge un peu à la règle et on inclut des personnes de couleur. Et dans les camps, de toute façon, voilà, on envoie ceux qui ont fauté contre le régime. Donc c'est comme ça qu'a été créé le personnage de Moira, notamment, qui était avant la rébellion, enfin avant le régime de Gilead, qui était la meilleure amie de June. Et Moira, eh bien, on la retrouve vers la fin de la saison, qui est dans un, en fait, elle est à Jezebel, qui est en fait un bordel. Donc, elle est elle aussi une esclave d'une certaine façon, même si elle, on a l'impression qu'elle s'y est un peu fait une raison. Elle est une esclave sexuelle. Et il faut savoir que Moira, elle est lesbienne. Donc, pour elle, c'est vraiment une forme d'esclavage, c'est une forme de torture très très cruelle en fait.
C'est une horreur absolue pour tous les personnages. C'est ouais. Une no future pour personne. Quoi.
Ah ouais. Sauf les hommes qui sont aux commandes en fait. Voilà. Où eux, ils sont voilà. Mais c'est normal.
Ils profitent de ce bordel.
C'est normal, voilà. C'est un régime qui a été façonné pour eux et par eux, donc voilà. Donc forcément, eux, ils sont tout en haut de la chaîne alimentaire. Et Moira va être partie prenante en fait dans cette résistance jusqu'au moment où elle va croiser June dans ce bordel, Jezebel, et Moira en fait elle a le feu en elle quoi, donc en fait il y a un jour où elle va réussir à assommer un de ses, c'est pas vraiment un client hein, mais un homme qui vient la voir dans sa chambre, elle l'assomme et en fait elle se fait la malle quoi en voiture, et elle arrive à retrouver le Canada. Donc elle arrive à rejoindre le Canada.
Elle arrive à s'enfuir.
Elle arrive à s'enfuir. Ouais,
mais parce qu'elle va avoir une résonance sur June, bien évidemment.
Ça aura des ricochets, parce qu'évidemment elle finit par après c'est plus tard, mais elle va finir par retrouver Luke, et donc on va dire que Moira c'est vraiment le lien qui va se tisser entre June et sa liberté quoi. Parce que Moira la raccroche à son mari quelque part, elle la raccroche à un futur, à un espoir de d'ailleurs. Et un monde libre, quoi, quelque part. Même si elles peuvent pas vraiment communiquer entre elles après ça. Mais voilà, ça maintient ça fait partie de ces petites choses, comme sa fille, Anna, comme des messages de d'inconnus qui disent je suis là, je suis en vie, qui écrivent à leurs femmes, à leurs épouses, à leurs sœurs, à leurs mères qui sont asservies. Tout ça, c'est des petites choses, c'est des petites étincelles d'espoir qui va permettre à June de pas devenir complètement dingue, quoi.
Quand on arrive donc à la fin de la première saison, tous ces éléments-là sont tissés. June va créer un espèce de mouvement de rébellion face à Tante Lydia. Et la fin de la première saison se termine comme dans le livre, si j'ai bien compris. À savoir, elle est emportée par la police. Sauf que on a des doutes et on ne sait pas si elle va survivre. Ou si elle est exfiltrée, ou si elle va purement et simplement être pendue.
Ouais. Donc en fait, c'est ça. C'est-à-dire que c'est la grande cruauté de cette série, c'est de nous laisser avec un cliffhanger comme ça et des mois d'attente avant de savoir. Alors, parce qu'on se, voilà. Alors, on se doute bien qu'ils vont pas. Ça, après, c'est le côté sériephile qui a l'habitude aussi de ce genre de cliffhanger. On se doute bien qu'ils vont probablement pas tuer l'héroïne. Retour de la saison 2, mais comme jamais rien ne va à Gilead et qu'il trouve toujours des nouveaux moyens de torturer les héroïnes, on se dit qu'elle risque d'aller vers soit de la torture, soit peut-être la liberté, parce que effectivement, juste avant de monter dans le van, Nick lui dit « fais-moi confiance ». Et alors Nick, qui est le chauffeur de Fred, du maître de June, qui s'avère être un œil, un espion, mais qui en même temps va vraiment se prendre d'affection pour June, voire tomber amoureux d'elle. Mais on a quand même toujours un doute sur lui, quoi. Parce que la série nous a aussi appris à nous méfier.
Ne faire confiance à personne.
Ah bah surtout pas aux hommes, en plus. Hein. Surtout pas aux hommes. Même si y a beaucoup de femmes qui sont complices du régime, parce que notamment les épouses des commandeurs, parce que ça les protège. Elles sont protégées aussi, comme ça, de par leur statut. Mais voilà, on n'a pas... Voilà, elles ne peuvent pas se faire confiance entre elles, même entre servantes. Elles ont peur d'être dénoncées. Donc alors, un homme encore moins. Je pense que June, au départ, prend le parti de se dire « Bon, je vais essayer de me le mettre dans la poche. » Et finalement, effectivement, il y a des sentiments qui vont se développer entre eux. Mais... à ce moment précis, la fin de la saison 1, et ça se termine exactement pareil dans le bouquin, on ne sait pas ce qui va arriver à June. Et elle est terrifiée, ça se lit sur ses yeux. Je pense qu'elle ne croit pas du tout qu'il y a un lendemain, quoi. La différence, c'est que le bouquin, comme évidemment, il n'y a pas une saison 2, le livre s'est terminé comme ça, mais il y avait un épilogue quelques années dans le futur pour dire « Ah, on est finalement dans un régime... » Vous voyez, à l'époque, oh là là, c'était vraiment des idiots misogynes. Maintenant, tout va bien, on est dans une société égalitaire. Même s'il y a quand même des petits indices que toute la misogynie n'a pas disparu, qu'il y a encore vraiment des choses à vaincre en termes d'inégalité entre les femmes et les hommes. Mais voilà, il y a cette espèce d'épilogue un peu doux-amer.
Alors Delphine, comme tu le mentionnais, le livre sur lequel la série est basée, est écrit par Margaret Atwood et a été publié en 1985. Atwood, qui est consultante pour la série, vient d'écrire d'ailleurs une suite à ce livre, The Testament, qui se déroule 15 ans plus tard et n'a pas de lien direct avec la narration de la série. Voilà ce qu'elle disait au même Emmy Award où la série a fait une véritable razzia quand elle accompagnait toute l'équipe.
Cela faisait très longtemps que le roman a été écrit et que le premier film a été tourné. Et le producteur de ce film est là ce soir, Daniel Wilson, qui, avec beaucoup de courage, a fait un film en 1989 quand le contexte autour du livre était très différent. Peu de gens pouvaient alors admettre que c'était une situation plausible. Il y a plus de gens qui sont maintenant prêts à le croire, et en réponse à la question de savoir ce que je souhaite que les gens en retiennent, je veux qu'ils se souviennent de ne jamais croire que ça ne peut pas arriver chez nous. C'est une des idées de base du livre.
Par le passé, le livre de Margaret Atwood avait déjà été adapté, 5 ans à peine après sa publication. C'était par Harold Pinter, en 1990, dans un long métrage de Volker Schondorf, le prestigieux réalisateur allemand du Tambour, de L'honneur perdu de Katharina Blum, par exemple. À la distribution, on comptait Natasha Richardson, dans le rôle d'Offred, et Robert Duvall et Faye Dunaway, dans le rôle du couple formé par le Commodore et par Serena. Quand on se lance dans la saison 2, par contre, de la série, l'histoire, cette fois-ci, est totalement originale. C'est la vraie suite qui n'a jamais été écrite de Handmaid's Tale, celle que les lecteurs attendent depuis 30 ans.
Alors en fait, tout ce qui va arriver à June, surtout en saison 2, ça va aussi être déterminé par le fait que maintenant elle est enceinte. Donc... elle est à la fois toujours une esclave, mais elle a aussi un statut. Alors, je mets des gros guillemets privilégiés par rapport aux autres handmaids, aux autres servantes qui ne sont pas enceintes, parce que c'est vraiment un colis précieux qu'elle transporte. C'est la naissance éventuelle, voilà, d'un nouveau bébé. Donc, il faut la protéger à tout prix. Donc, on ne peut pas lever la main sur elle. Donc ça va aussi lui permettre d'être encore plus effrontée que d'habitude et de dire des choses qu'elle n'aurait jamais osé dire si elle n'était pas enceinte. Donc elle va devoir aussi marcher sur un fil, parce que si elle perd le bébé, elle risque gros. Donc c'est pour ça qu'elle va en cette saison 2 là c'est vraiment la saison de j'essaye de fuir et j'essaye de faire quelque chose et de me barrer quoi. Et ça va être ça va évidemment s'avérer compliqué. Et elle va, il y a un épisode magnifique où elle est dans une maison abandonnée où il y a que de la neige et de la forêt autour, et elle est obligée d'accoucher toute seule. Et là c'est pareil, on se dit qu'à partir du moment où elle accouche, à nouveau, son statut redevient précaire.
Ouais, tout à fait.
On va la séparer de son enfant. Voilà. Donc elle va retourner dans la maison. Ou est-ce que, parce qu'elle a été justement rebelle, est-ce qu'on va la punir? Est-ce que là, elle est potentiellement punissable?
La saison 2 se termine sur, là encore une fois, un cliffhanger. D'après ce que j'ai cru comprendre, June a la possibilité de s'enfuir. Mais en dernière seconde, elle va... Non, finalement, elle va décevoir un peu tout le monde. Enfin, nous, spectateurs.
Oui, clairement.
En disant, non, je veux rester. Par contre, elle confie son nouveau-né.
Oui. Alors, elle a... En fait, elle a retrouvé Emily, qui est une handmaid qu'elle a rencontrée en saison 1, qui est jouée par Alexis Bledel. Qui donc elle est une servante aussi, écarlate, qui a été particulièrement maltraitée puisqu'elle a eu une histoire d'amour avec une autre servante. Donc c'est un péché. On les appelle les traîtres à leur genre, gender traitor. Elle a été mutilée. Ablation du clitoris. Hein. Donc elle a été mutilée pour ça. Mais comme elle est toujours fertile, elle est passée de maison en maison. Enfin voilà. Donc, effectivement, en saison 2, June retrouve Emily, et Emily, c'est une rebelle. C'est vraiment une rebelle. Elle n'a jamais voulu fermer sa bouche, quoi. Elle n'y arrive pas, quoi. Surtout parce que, à cause de ce qu'on lui a fait subir, elle a encore plus envie de se rebeller. Donc, en fait, Emily est placée dans une maison chez un nouveau commandeur, qui est joué par Bradley Whitford, pour ceux qui ont vu à la Maison Blanche. et on n'a pas envie qu'il soit méchant, lui. C'est pas possible.
C'est généralement toujours un personnage très bienveillant.
Voilà. Donc, vraiment, moi, je sais que j'ai vraiment croisé les doigts pour qu'il soit pas méchant. Et jusqu'au bout, on a évidemment des doutes. C'est un commandeur. Il fait partie, en plus, vraiment des instances décisionnaires de Gilead. Il a aidé à sa conception. Enfin, vraiment, il est impliqué jusqu'au coude. Et finalement, on réalise que c'est un bon gars et qu'il conduit Emily. En tout cas, il aide Emily à s'échapper. June, qui a eu...
Ah, carrément, ouais.
Ouais. Ah oui, non, mais là, il brave aussi sa propre hiérarchie. Lui, il risque la peine de mort aussi en faisant ça. Ce qui fait basculer aussi les choses, c'est donc à partir du moment où June accouche. Donc, elle sait que sa situation devient précaire. Mais elle se voit... donner le choix, en gros, de être séparée de sa fille ou de retourner dans la maison des Waterford. Et de toute façon, il faut qu'elle l'allaite, ce bébé. Parce que c'est pas... Même si le bébé est destiné à être l'enfant de Serena Joy et de Fred, il faut quand même que la mère soit là pour l'allaiter. Donc June, elle a encore un petit sursis, en fait, dans cette maison. Et ben, il se trouve que Serena, elle va commencer à être attendrie aussi. Dans son rôle de mère d'abord, parce que c'est pas son bébé. Et c'est compliqué pour elle. Et donc nous, par la même occasion, on est aussi attendrie par Serena. Qui est un personnage merveilleux et qui est joué par Yvonne Strahovski et qui est très complexe.
C'est vrai qu'au départ, on voit le personnage de Serena comme une espèce de dominatrice qui est pas à l'aise dans son rôle parce que elle est aussi asservie, mais quelque part, c'est une femme dominante. Mais voilà, là, en effet, elle a des facettes un petit peu plus complexes dans la saison 2 quand même.
Mais surtout qu'en plus, on avait appris que Serena, elle avait été... C'est celle qui a théorisé Gilead. C'est elle qui avait présenté devant une assemblée de gens qui elle avait présenté ses solutions. C'était une femme très intelligente et très instruite. Évidemment, toute la gloire en est revenue à son mari, hein, qui l'avait aidée sur ses travaux. Et aujourd'hui, elle ne peut plus se présenter devant une assemblée d'hommes et dire « Voilà, moi j'ai telle solution ». Elle ne peut pas. Donc elle aussi, elle va commencer un petit peu à ne plus accepter cette condition, à se rendre compte qu'il y a certaines inégalités qui la touchent. Évidemment, elle va voir d'abord ce qui la touche en premier lieu avant d'avoir de l'empathie pour toutes les autres femmes. Et bon. Et en fait, c'est lors d'une visite diplomatique au Canada avec Fred, donc dans un pays où les femmes sont libres, elle voit des femmes brandir des pancartes pour le comité d'accueil est pas du tout accueillant, justement. Il y a des femmes qui brandissent des pancartes, c'est vraiment le Canada est très très conscient que leur voisin a fait n'importe quoi. Et Serena, elle va être confrontée aussi à ça, quoi. Elle va se dire ah mince, c'était bien quand j'avais encore le droit de faire des choses, d'être libre, de penser ce que je veux. Donc petit à petit, le fait d'être avec Offred, avec June, plus souvent, pour nourrir le bébé, pour créer un lien et tout, les deux femmes vont se rapprocher. C'est un peu ce qu'on attendait aussi, quoi. On avait envie que Serena, elle brise la carapace un peu, quoi, et qu'elle se rende compte de son propre asservissement et de celui des autres femmes.
De la même manière, j'ai l'impression aussi que tante Lydia va aussi révéler des facettes d'elle un petit peu plus subtiles, quoi, un peu moins caricaturales que la cheftaine qui ordonne à toutes les autres de faire des choses, quoi.
Bah, c'est très compliqué et c'est un personnage qui est très difficile à cerner, tante Lydia, parce que c'est vraiment, c'est une femme qui torture d'autres femmes, qui les frappe, qui les mutile. Qui les réduit à l'esclavage, qui les mate avant de pouvoir les donner à leur maître. Et à la fois, c'est très paradoxal, mais c'est une femme qui prend aussi son rôle très à cœur et qui s'occupe de ses filles. Elle les appelle ses filles. Donc c'est très étrange. Elle va avoir un lien, encore une fois, particulier avec Janine, dont on parlait tout à l'heure, qui est folle, qui a jamais supporté en fait l'asservissement, qui est devenue dingue dès qu'elle est tombée enceinte. Enfin, donc elle a des moments, tante Lydia, elle a vraiment des moments. Alors j'irai pas jusqu'à dire que c'est de la tendresse, mais elle a une forme d'affection, elle a développé une forme d'attachement pour certaines de ses filles. Mais je crois que la peur du régime aussi est plus grande et que le lavage de cerveau a fonctionné aussi. Donc effectivement, quand on a ce dernier épisode où June, avec d'ailleurs l'aide de Serena aussi, c'était assez inattendu, Serena va beaucoup hésiter, mais finalement elle va accepter de rendre le bébé à June pour qu'elle s'échappe avec sa fille. Et il y a une chaîne de solidarité qui va se créer entre des Martha d'abord. Donc, parce que, comme je le disais tout à l'heure, ce sont des domestiques qui sont presque invisibles. Et elles sont tellement invisibles qu'en fait, elles arrivent à faire comme ça un espèce de canal pour que June s'enfuit, un canal de résistance comme ça, qu'on ne soupçonnait pas, parce que ce sont des femmes qui se taisent et qui font leur tâche. On ne soupçonnait pas que la résistance, quelque part, pouvait venir de ces Martha. Et donc, elles vont se aider June, comme ça, à traverser plusieurs pâtés de maison, à s'enfuir à travers les champs. Et donc, finalement, la voiture qui transporte le commandeur, qui est joué par Bradley Whitford, et son amie Emily, arrive. June est censée monter dans la voiture avec le bébé pour rejoindre le Canada.
Vers la liberté.
Vers la liberté, vers son mari aussi, vers sa meilleure amie Moira. Et finalement, bah June, elle donne le bébé à Emily, elle lui dit « Appelle-la Nicole et dis-lui que je l'aime. » Et elle reste sur place. Alors, en fait, évidemment que nous, notre premier instinct, c'est de se dire « Mais elle est bête, il faut qu'elle parte, quoi. Elle a une enfant, elle peut retrouver son mari, elle peut faire une autre... Voilà, avoir une autre vie.
Et démarrer peut-être une rébellion depuis le Canada.
Depuis le Canada, exactement, où clairement, il y a déjà des gens qui sont en colère et qui sont prêts à faire quelque chose. Mais en réalité, on a un peu oublié qu'elle avait toujours sa petite Anna, qui est toujours à Gilead.
Et toujours le chantage à sa fille.
Voilà, donc elle est toujours à Gilead et je pense que... Et en plus, je pense qu'elle a vraiment... Enfin, je peux me tromper, mais j'ai l'impression que June, elle a pris goût quelque part aussi à cette rébellion, parce qu'il y avait une rebelle en elle dès le départ. Et là, elle se dit, je peux changer les choses, je peux faire quelque chose de l'intérieur. Maintenant que je sais que j'ai aussi une alliée éventuelle en Serena, je peux la travailler. Je pense que, en tout cas, à mon avis, c'est ce qui nous attend en saison 3.
Thank you.
La saison 3 de la série vient de démarrer et en France, c'est OCS qui la diffuse. Ces premiers épisodes nous montrent des changements définitifs en ce qui concerne l'environnement pour June, qui a décidé de rester à Gilead, non seulement dans le but de pouvoir un jour être en permanence aux côtés de sa fille Anna, mais sans doute aussi pour activer la rébellion de l'intérieur. Elle passe du stade de prisonnière à celui de rebelle sous couverture, affirme le showrunner de la série, Bruce Miller. Et Elizabeth Moss disait dans une interview que June, dorénavant, combat le feu par le feu. Et pour combattre les gens qui les oppressent, elle doit être auprès d'eux et devenir graduellement sans pitié. Alors, on vous l'a mentionné, Bradley Whitford, de The West Wing, continue d'incarner le commandant Lawrence. Et c'est totalement ironique puisque Elizabeth Moss a été révélée dans la même série qui a fait de Whitford une vedette, The West Wing. Elle y tenait le rôle de Zoé, la fille du président Bartlett. Auparavant, elle était un petit peu plus discrète dans la pourtant très célèbre série américaine La Ville du Grand Secret, Picket Fences. Elle avait 10 ans quand elle jouait le personnage de Cynthia Parks dans la série David et Kelley. Elle connaît donc avec le rôle de June un nouveau triomphe après ses rôles marquants dans Mad Men et dans Top of the Lake. Quant à Serena, qui prend une dimension proprement stupéfiante dans cette saison, c'est l'actrice de Chuck et de Dexter qui l'incarne, Yvonne Strahovski. Samira Wiley de Orange is the New Black tient le rôle de Moira, et c'est Joseph Fiennes, le frère de Ralph Fiennes et acteur principal de Flash Forward, qui est le commandeur Waterford. Et puis bien sûr, dans le rôle sans merci d'Emily, vous avez reconnu Alexis Bledel, qui fut Rory dans Gilmore Girls. Tout autant que la réalisation, avec les ralentis, les très très gros plans et les décors blafards, tout ça étant aidé par le tournage à Toronto, il y a les costumes de Handmaid. C'est le travail de Anne Crabtree de concevoir cet élément crucial de l'histoire. Son inspiration, elle dit l'avoir trouvée dans les films de Hitchcock, dans les films de la Nouvelle Vague, italienne et française, dans les groupes religieux et dans les sectes contemporaines. Et surtout pas dans le roman d'origine, ni dans le film de 1990. Ensuite, elle a réalisé une centaine de cornettes pour aller sur les actrices. Pourquoi autant ? Parce que, comme elles sont blanches, elles se salissent très vite. Et en plus, certaines sont en plastique, ce qui est bien pratique quand le tournage a lieu sous la pluie. Enfin, les cornettes des actrices principales sont faites sur mesure. De son côté, Julie Bargoff a transformé les maisons de Toronto en ville du Massachusetts. Et la maison des Waterford, par exemple, est incroyablement détaillée. Les tableaux sont des reproductions de tableaux du musée de Boston. Et ça implique le fait que Serena les a récupérés avant la destruction du musée. C'est bien sûr en opposition avec la chambre d'Offred, de June donc, qui est meublée, elle, de façon absolument minimaliste. Et comme à Gilead, tout ce qui est lecture, phrases, écriture ou mots sont absolument interdits, entre autres pour les femmes, 500 symboles ont été inventés pour remplacer les textes qui figurent habituellement dans les supermarchés, sur les objets ou les produits de consommation. En 10 épisodes, la série s'est hissée au rang d'œuvre majeure de la télévision. J'ai demandé à Delphine Rivet si ce succès l'étonne pour un thème aussi âpre et difficile d'accès.
J'étais surprise parce que effectivement, quand on voit la teneur des épisodes, moi en tant que femme, c'est très très dur à regarder. Clairement. C'est une série qui est magnifique, mais je la conseille pas facilement.
C'est pas à regarder le soir comme ça, tranquille, en rentrant du travail. On a envie de se détendre 10 minutes.
Voilà. On ne se fait pas un binge-watching entre amis aussi. Tiens, on va se faire un petit marathon The Handmaid's Tale. Non, ça marche pas. C'est une série qu'on regarde et c'est douloureux et c'est beau. Mais oui, bon, en tant que femme, clairement, on a un peu les tripes en vrac après. Et en même temps, je suis pas complètement surprise non plus parce que, bon, d'abord, la production est magnifique. Voilà, c'est très très, c'est merveilleusement joué, c'est très bien filmé. Les costumes d'Anne Crabtree sont magnifiques. Il y a un souci du détail qui est incroyable. Mais c'est surtout une série qui, même si le livre dont elle est inspirée et auquel elle est fidèle pendant toute la saison 1 a été écrit en 1985, elle est terriblement d'actualité. Elle est terriblement pertinente. C'est ça qui fait mal aussi.
Au-delà du sujet des femmes ou quoi que ce soit, c'est l'asservissement et le fascisme qui est pertinent.
Voilà, on peut l'avoir sous l'angle effectivement du fascisme, mais on peut l'avoir aussi sous l'angle des luttes féministes aussi. Et là, la saison 3 va arriver alors qu'aux États-Unis, dans plusieurs États, les droits sur l'avortement reculent. Et les titres des journaux récemment, c'était « Ça y est, on est dans The Handmaid's Tale ». Et en réalité... En réalité, Margaret Atwood, elle disait que elle a pas fait. C'est pas de la science-fiction qu'elle a fait, c'est une fiction spéculative. C'est-à-dire que c'est une espèce de, une forme de projection. En réalité, elle a très très bien observé le monde dans lequel on vit. Et ce qui était valable à l'époque est encore valable aujourd'hui.
C'est dramatique d'ailleurs.
Oui, c'est assez dramatique. Là, on est juste en train de s'affoler parce que ça arrive à un pays développé, à une grande puissance mondiale. Mais ce sont des problématiques, les mutilations génitales chez les femmes, l'interdiction de l'avortement, les problèmes de... Enfin voilà, tout ce qui est lié comme ça à une espèce de misogynie intégrée, ça existe dans plein de pays dans le monde. Et là, on est juste en train de flipper parce que ça arrive aux États-Unis. Mais en réalité, voilà, on est tous... Et Margaret Atwood, d'ailleurs, elle l'a dit, hein, son livre était pas... Enfin, elle n'a pas créé ça, c'est pas de la pure imagination. Elle s'est inspirée, elle a regardé ce qui se passait au Pakistan, ce qui pouvait se passer en Inde, ce qui pouvait se passer à l'époque en Roumanie, à l'époque de Ceausescu. Donc vraiment, elle a pris comme ça, elle a piqué des éléments qui étaient réels. Et elle en a fait cet assemblage-là qui est devenu Gilead, mais effectivement, des régimes autoritaires, l'histoire nous en a donné déjà. Donc, c'est pas une pure invention. Donc, le fait qu'elle soit encore hyper pertinente aujourd'hui, la série, c'est ça qui est dramatique, en fait. C'est que ce qui était valable en 85 est toujours valable aujourd'hui, et on a toujours voilà, cette peur.
Eh bien, merci Delphine pour ta participation et ton analyse. The Handmaid's Tale est en diffusion sur OCS, les deux saisons sont disponibles. La nouvelle est diffusée depuis le 6 juin dernier, au fur et à mesure de sa programmation aux USA sur Hulu, vous avez compris. La semaine prochaine, Défenseur de la veuve et de l'orphelin, Le chevalier et sa monture, je vous proposerai de faire un tour dans Kit, la voiture plus intelligente que son conducteur. On parlera de K2000. Notre podcast est à retrouver sur les plateformes Deezer, Podcast Addict et Apple.